VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 31 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, le référendum sur une nouvelle constitution a été émaillé d'incidents dans des bureaux de vote à travers le pays. Le processus s'est bien déroulé dans l'ensemble, assurent cependant les autorités.
Au Mali, Iyad Ag Gali, le leader du mouvement Ansar Dine, aurait accepté un cessez-le-feu.
Au Bénin, le cas Sébastien Ajavon continue de défrayer la chronique après la découverte de 18 kilos de drogue dans un conteneur de sa société.
Syrie, l'ONU horrifiée par les tirs des rebelles qui ont fait 41 morts dans les quartiers ouest d'Alep.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le référendum sur la nouvelle constitution présenté par le président Alassane Ouattara a été marqué hier par des violences dans une centaine de bureaux de vote. L'opposition, réunie au sein de la coalition du Non, situe le taux de participation à 4%. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Aucun chiffre officiel n'a été fourni après le référendum constitutionnel de dimanche, mais la participation semblait assez basse, selon l'agence Reuters, bien en dessous des 54,5% enregistrés lors de la présidentielle l'an passé, notamment à Abidjan, la capitale économique du pays. L'opposition avait appelé à un boycott du scrutin. Le Front du Refus estime que les modifications voulues par le président Alassane Ouattara ont pour but de renforcer la coalition qui le soutient. Le président Ouattara, lui, présente son projet comme une garantie pour l'approfondissement de la paix et de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le oui devrait l'emporter, estiment des analystes, qui ajoutent que le chiffre de la participation devrait être le facteur important. À la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, l'opposition a donné de la voix. Pour le Front du Refus, les électeurs ne se sont pas déplacés et la coalition du Non affirme que le taux de participation oscille entre 3 et 5 % La commission électorale indépendante, habilitée à proclamer les résultats, n'a fait aucune déclaration sur la question. Le gouvernement ivoirien non plus.
6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes hier en Côte d'Ivoire dans ce référendum sur la nouvelle constitution. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a assuré que les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble. Cependant, il y a eu de nombreux incidents, comme on vient de le dire. Des jeunes ont saccagé le matériel électoral à Yopougon, quartier populeux d'Abidjan, à Gagnoa aussi, fief de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour un témoignage, écoutons Yacouba Silla.
Le fief de Laurent Gbagbo, nous avons constaté dans des villages, il n'y a pas eu de vote. Ça, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu de vote. À Maman, c'est dans certains villages à Ouragayo, même dans la ville à Gagnoa. Nous avons constaté à Babré, Garayo, Katé-Soleil, tous les bureaux de vote ont été saccagés. C'est les bureaux qui sont vers le commerce du Labourou. Là, il n'y a pas de souci, les gens ont voté normalement.
Est-ce que ça ne prouve pas que le pays est loin d'être réconcilié alors?
Ça, la réconciliation, ça, il faut dire, nous avons recours qu'en Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que nous sommes ensemble, nous pouvons nous réconcilier sans l'ONU-ci, sans la communauté internationale. Il faut que nous nous asseyons pour dire que la Côte d'Ivoire nous appartient. Elle est seule et indivisible.
Au Mali, Iyad Ag Gali, leader du mouvement Ansar Dine, aurait accepté un cessez-le-feu à la demande du président du Haut Conseil islamique du Mali, qui dit avoir reçu une lettre écrite par le leader de toutes les rébellions Touareg. Dans ce courrier, Iyad Ag Gali rejette cependant toute personne qui rejette la charia. Pour plus de précision, Idriss Fall a joint à Bamako l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali.
C'est affirmatif. Nous avons fait une démarche auprès de lui un peu trop longtemps, mais maintenant, il a répondu favorablement à cette demande. Voilà.
Est-ce que c'est un papier écrit ou bien c'est un engagement oral?
Il faut y croire que ce qui a été dit est un engagement que moi je respecte. Et je sais aussi que c'est quelqu'un qui va honorer ce qu'il a dit.
Donc, Iyad, vous vous êtes parlé au téléphone, vous vous êtes vu, comment ça s'est passé?
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous dire le tout, mais ce qui est certain, c'est que l'information est vraie. Assalamu alaikum.
Eh bien, c'était l'imam Mahmoud Diko. président du Haut Conseil islamique du Mali. Toujours au Mali, les forces armées et de sécurité ont repoussé des bandits armés sur l'axe Gundam-Tombouctou hier matin. 4 assaillants ont été arrêtés, nous dit de Tombouctou Abdoulaye Traoré.
Il tentait d'intercepter un véhicule, précisément une ambulance, quand un convoi de l'armée en provenance de Gundam les a surpris dans leur forfait. Les assaillants ont pris la fuite en donnant des coups de feu. L'armée a aussitôt engagé une poursuite. Selon des sources militaires, 4 assaillants sont mis aux arrêts et conduits au camp militaire Fouad Cheikh Sidi El Bakri de Tombouctou. Il faut rappeler que cette route Tombouctou-Gundam est la route de tous les dangers. Les embuscades et les braquages sont devenus monnaie courante. Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Au Bénin, le cas Sébastien Javan continue de défrayer la chronique. L'homme d'affaires, candidat malheureux à la dernière présidentielle, et 3 agents de Kajaf Komon séjournent à la brigade de gendarmerie de Cotonou depuis vendredi. C'est à la suite de la découverte d'une quantité de cocaïne évaluée à 18 kilos et estimée à 9 milliards de francs CFA dans l'un des containers de la société chargée de distribution de produits agroalimentaires. Le point avec Ginette Fleur Adandé à Cotonou.
La confusion est encore totale. Les Béninois ont du mal à se faire la réalité de l'heure. Qu'un homme aussi respectable que Sébastien Adjavon soit mêlé de près ou de loin à la commercialisation d'un produit aussi prohibé. L'opinion semble divisée autour de la question. Une partie de la population y voit un coup monté par les actuels gouvernants, pendant que d'autres pensent qu'il est temps que ceux qui se sont enrichis de façon illicite soient mis hors d'état de nuire. Mais loin de toute cette agitation, la réalité est là. Sébastien Adjavon est gardé à vue pour les besoins de l'enquête. Quelques secrétaires généraux et membres de la société civile ont d'ailleurs, à travers une conférence de presse, dénoncé ce qu'ils appellent violation de la loi et des libertés individuelles. Il faut dire que c'est ce lundi matin que les populations seront réellement fixées sur ce que la justice reproche réellement à l'homme d'affaires. Mais déjà, on annonce dans les couloirs la mise sur pied d'une commission devant se pencher sur comment 18 kg de drogue pure se sont retrouvés dans un conteneur censé convoyer vers Cotonou des produits congelés. Pendant ce temps, les réseaux sociaux restent inondés d'intoxications, les unes les plus rocambolesques que les autres. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les djihadistes qui défendent Mossoul font désormais face à un nouveau front. Les combattants des unités de la mobilisation populaire, Hashd al-Sha'bi, sont entrés en action ce week-end. Idriss Fall.
Cette coalition de puissantes milices soutenues par l'Iran était jusque-là peu impliquée dans l'offensive. Les Hashd al-Sha'bi ont annoncé hier avoir repris plusieurs villages, dont Al-Imraini, majoritairement peuplé de musulmans chiites. Ces combattants essaient de couper les lignes d'approvisionnement entre Mossoul et Raqqa, autre fief du groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Dans le sud de Mossoul, les forces fédérales ont repris samedi la localité d'Al-Shura après une semaine de violents combats. À l'est, le front semble plus calme. Dans la ville chrétienne de Bartala, à 5 km de Mossoul, l'armée irakienne et ses sections d'élite essaient de consolider leur position. Les combats à l'ouest pourraient menacer la ville antique de Hatra, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, et les célèbres ruines de Nimrod. Les Nations Unies ont fait état d'exécutions de masse à Mossoul et de l'enlèvement de près de 8000 familles qui pourraient être utilisées comme boucliers humains.
Syrie, l'ONU s'est déclarée horrifiée hier par les tirs des rebelles qui ont fait 41 morts dans les quartiers ouest de la métropole divisée d'Alep, et ce depuis le début vendredi d'une offensive des groupes anti-gouvernementaux qui cherchent à briser le siège imposé par le régime syrien.
Présidentielle américaine, la candidate démocrate Hillary Clinton a essayé de dépasser hier le choc de la relance surprise de l'affaire de ses emails par le FBI, alors que les sondages se resserrent à 8 jours de l'élection. Elle a de nouveau fait campagne en Floride, état clé dans la course à la Maison-Blanche, où son avance sur Donald Trump, le candidat républicain, s'est évaporée dans les derniers sondages. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
Ecobank Côte d'Ivoire va procéder le 4 novembre au remboursement et au paiement des intérêts de son emprunt obligatoire dénommé Ecobank Côte d'Ivoire. Selon le Financial Afrique, le montant total de ce paiement s'élève à 1,714 milliards de francs CFA. La Banque africaine d'import-export basée au Caire a accordé un crédit de 130 millions de dollars pour la construction de l'hôtel Radisson Blue et le centre des conventions de Kigali, ce qui représente plus d'un tiers de ce projet, estimé à 300 millions de dollars, selon le ministre des Finances du pays. Les autorités égyptiennes doivent poursuivre les réformes économiques malgré les récentes protestations contre la hausse des prix et les pénuries alimentaires, a estimé jeudi le Fonds monétaire international qui finalise un prêt massif au pays. Faisant face à de grandes difficultés économiques, l'Égypte a demandé l'aide du FMI et a obtenu un préaccord pour un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football pour commencer, finale aller de la Coupe CAF. Le Mouloudia de Béjaïa et le tout-puissant Mazembe se sont quittés sur le score d'un but partout.
Oui, les Corbeaux ont ouvert la marque par Jonathan Bolingui sur pénalty à la 43e minute de jeu et les Algériens ont égalisé à la 66e par Faouzi Yaya. Les deux équipes se quittent donc sur un match nul, ce qui est un avantage pour les Congolais. Les Corbeaux et les Crabes se retrouveront dimanche prochain à Lubumbashi pour le match retour. Le tout-puissant Mazembe peut donc remporter son 7e titre en compétition africaine, le second consécutif après sa victoire l'année dernière en Ligue des Champions. Quant au Mou Béjaïa, le club algérien pourrait soulever un premier trophée inédit dans son histoire pour sa première participation aux épreuves de la CAF.
Football toujours sur le continent et on fait le point de quelques championnats de première division.
Démarrons par l'Afrique du Sud. Le derby de Soweto entre Orlando Pirates et Kaizer Chiefs comptant pour la 7e journée du championnat s'est soldé par un score nul 0-0. Kaizer Chiefs reste leader au classement avec 14 points devant Golden Arrows. Les Pirates, eux, sont 5e avec 10 points. 8e journée au Togo et l'Est Togo Port conforte sa position de leader au classement après avoir dominé Maranatha de Fiokpo 2-0. Les Dockers comptent 17 points devant l'équipe de Chamba, 14 points. Koroki d'ailleurs vainqueur de Biganti 1-0. Et puis 6e journée en Tunisie dans le groupe A. Le match au sommet entre le club sotisfacien, le leader et l'étoile du Sahel n'a connu ni vainqueur ni vaincu, score un but partout. Même score dans la poule B pour le derby de Tunis entre Espérance et le club africain. Le club africain garde la première place avec 13 points.
7e journée en RD Congo avec le derby de Kinshasa dans la zone ouest.
Oui, Idrissa, un derby de Kinshasa entre DSMP et l'ASV Club. Score final 2-0 pour le Daring Club Motiba Pembe, doublé de Francis Kazadi. Les Immaculés, suite à ce succès, sont 4e avec 12 points. L'ASV Club 2e avec 14 points laisse FC Renaissance seul en tête avec 15 points malgré son match nul 0-0 face à Racing Club de Kinshasa. À l'Est, Bukavu Dawa a surpris le leader l'AS Dauphin 1-0. Et puis au centre-sud, Sanga Balende a pris la tête du classement grâce à son succès en déplacement 1-0 devant Timbumba. Les Sang et Ange totalisent 17 points devant TP Mazembe qui était au repos suite à la finale aller de la Coupe de la CAF.
Cyclisme avec le Tour du Burkina Faso et le coup double de l'Érythréen Zemenfes lors de la 3e étape.
Déjà vainqueur à Waiguya, Solomon Zemenfes a remis ça hier à Zignaré au terme de cette 3e étape où il a aussi revêtu le maillot jaune que le Burkinabé Mathias Sogo portait depuis la première étape. 4e étape aujourd'hui, 136 km entre Kombisiri et Sébélé.
Le Burkina Faso, on y reste pour parler de l'épilogue de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball.
Chez les hommes, Al Ahly remporte la compétition en battant en finale l'Espérance de Tunis 26-23. Et au niveau des dames, les Angolaises de Primeiro do Agosto sont sorties vainqueurs devant les Congolaises de Brazzaville à celle 42-24. Et puis Idrissa, on reprend avec les vieilles habitudes de la NBA, le championnat nord-américain de basketball et les résultats de la nuit avec vous.
Memphis, Washington, 112-103. Houston, Dallas, 93-92. Oklahoma City, LA Lakers, 113-96. Miami, San Antonio, 99-106. Détroit, Milwaukee, 98-83. Phoenix, Golden State, 100-106. Elle est clippeuse, Utah 88-75.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, assassinat, attaque à main armée et insécurité croissante à Bamako. La peur et la violence se sont installées dans la capitale et ses alentours. Pour le seul mois d'octobre, 3 attaques ont eu lieu, faisant des victimes et des blessés graves. Et il y a eu la récente attaque d'une rare témérité d'Ecobank de Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
Face à la multiplicité des attaques, la peur s'est installée chez bon nombre de Bamakois, car le braquage en pleine journée devant les sièges d'Ecobank à Bamako est venu s'ajouter à la longue liste des attaques qui ont fait des victimes.
En ce qui concerne l'insécurité à Bamako, actuellement, moi-même personnellement, moi je n'ai même pas de mots à dire. Parce que tellement ce phénomène-là est devenu de façon bizarre maintenant. On attaque les gens n'importe comment, n'importe où. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autorité même. Il faut voir le cas devant l'Ecobank. Mais les policiers étaient là, les gardes là maintenant même étaient au niveau de l'Ecobank, mais les gens fuyaient. Les forces de sécurité fuient même devant les bandits. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire maintenant? On se remet tout puissant.
Le braquage de la semaine passée devant les sièges de l'Ecobank est resté à travers la gorge de pas mal de Bamakois qui n'ont pas compris l'inactivité des forces de sécurité au moment de ce braquage.
C'est-à-dire le chemin que les bandits ont pris pour prendre la fuite, ils ont dépassé des policiers pour continuer, sans que ceux-ci réagissent. C'est inexplicable. C'est les moyens qui manquent. Ouvre le feu sur quelqu'un devant toi. Tu as entendu le bruit. Tu as entendu la victime crier. Tu as entendu tout le monde crier. En tant que force de l'ordre étant arrêtée, même s'il n'avait pas pu neutraliser l'assaillant, au moins quand même, il faut tenter. C'est ce qui n'a pas été fait.
La journée du jeudi 27 octobre 2016 est encore dans la mémoire de bon nombre de jeunes, surtout les étudiants de la faculté des lettres qui ne sont pas loin du siège d'Ecobank.
On voit que réellement, le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle. Donc on voit que la population est exposée à des dangers. Même vu le cas du monsieur là, le cas du péage de Sanankoroba. Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures un peu restreintes par rapport à la sécurité de la population.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des mesures ont été prises. Des interpellations ont commencé au niveau des différents commissariats de la capitale. Bakoun Kané, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Il y a eu des interpellations. Je peux vous citer au niveau de la BT de Falajé, au niveau de la BT de Kalabankoro, au niveau du 10e arrondissement, du commissariat de police du 10e arrondissement, au niveau du commissariat de police du 3e arrondissement, du 2e arrondissement également et du 6e arrondissement, et entre autres. Donc ces interpellations, je ne saurais vous parler spécifiquement du nombre de personnes interpellées ou de l'identité des gens qui ont été interpellés. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a eu des interpellations.
Parmi les personnes interpellées, il y a des travailleurs d'un garage d'où est partie la plaque de la voiture des braqueurs. L'enquête se poursuit au niveau des différents commissariats. Même le téléphone de la victime est en train d'être analysé par les enquêteurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, les jeunes s'intéressent non seulement à la politique, mais nombre d'entre eux se sont déclarés candidats aux prochaines élections communales. Il bénéficie même du soutien du mouvement social, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara. Son reportage.
S'il te plaît, laissez ça parler. Il en vient.
Comédien aux heures de pointe pour quelques billets de francs guinéens.
Moi, je suis marié. Je suis deux enfants, une fille, un garçon.
Alia fait partie de ceux qui soutiennent les candidats jeunes.
Mais le politicien là, à l'air là, c'est pas travailler avec le jeune. Et l'homme travaille seulement avec les filles. Il n'aime pas avec le jeune de Conakry. Au nom de Dieu, ça ne va pas avec le patron.
Il n'est pas dans, presque dans un parti politique. Un jeune indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de couleur, quoi. C'est quelque chose qui peut résoudre notre problème.
Manque d'eau, mais aussi l'insalubrité sont cités parmi les problèmes des communes. La solution pourrait venir des maires jeunes. Dans la capitale, on y croit.
On doit faire une rupture. Les jeunes doivent se débarrasser des politiques, politiciennes, des vieux. Parce que vous n'allez pas sans savoir que les vieux d'aujourd'hui qui nous commandent, nos élites africains, en Guinée en général, ont failli à leur devoir.
Échec du système, envie de renouveler la classe politique, tels sont les objectifs d'un mouvement lancé par les jeunes au lendemain de la signature des accords politiques à Conakry.
Alpha Bakar Bari est membre du mouvement Liste Citoyenne. Ce mouvement apporte un soutien aux candidats indépendants.
L'aide est d'abord intellectuel. Ce que nous voulons apporter à ces gens, c'est d'abord l'assistance juridique pour qu'ils comprennent la loi et comment la loi fonctionne. Dans la constitution, par exemple, de leur caution de candidat, la constitution de la caution, les opérations de campagne, etc., etc., ce sont des choses que nous voulons améliorer. Ce sont des supports que nous voulons apporter justement aux candidats.
Une dizaine de candidats travaillent avec le mouvement. Ils défendent tous une nouvelle voie pour les jeunes.
Badra Kone et Amadouba sont deux jeunes candidats aux prochaines communales.
Vous avez appris à des gens un système qui, par le fait du temps, prennent conscience de la chose. Il y a une révolte. Les partis politiques ont instauré un système qui les rattrape aujourd'hui. C'est-à-dire donner de l'argent aux gens, les utiliser à leur fin politique.
Il y avait là le dégoût, mais puisque les gens n'avaient pas une alternative, ils étaient cantonnés. Et donc, comme ils ont su qu'il y a cette possibilité, il y a une autre voie que celle dans laquelle on veut les encercler, c'est tout de suite qu'ils ont sauté dans l'occasion.
Les élections communales sont prévues au mois de février de l'année prochaine. Plusieurs jeunes Guinéens espèrent se retrouver à la tête des communes à l'issue de ces élections. De son côté, le mouvement Liste Citoyenne dit vouloir se battre pour que soient possibles les candidatures indépendantes aux élections nationales, c'est-à-dire les présidentielles et législatives. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, la pêche des fretins sur le lac Kivu est une aubaine pour les habitants de Goma, surtout pour les revendeuses de ces petits poissons appelés sambaza dans la région. Environ 2 tonnes de ces fretins sont produites par jour par des pêcheurs artisanaux. Notre correspondant Charlie Kasereka est allé à la rencontre de ces pêcheurs, des jeunes surtout, qui sont exposés à différents dangers dont le gaz méthane du lac et les agressions de bandits armés.
À la fin de la journée, chaque jour, c'est une dizaine de pirogues qui quittent la rive pour les eaux profondes. Rien de très spécial pour ces pêcheurs artisanaux qui n'ont que des rames et des filets maya pour nous ramener du sambaza à la rive. Ce matin, M. Eloge, la trentaine, diplômé en droit international, et faute de moyens pour poursuivre ses études, il s'est lancé dans la pêche artisanale héritée de son père.
Nous faisons une pêche qui n'est pas du tout moderne. Nous avons des pirogues fabriquées de planches. Les rames de pêche, c'est ce qui remplace de moteur. Et puis, on prend des filets maya comme le filet qui est ici. Maintenant, on va pêcher. Et puis, au matin, on est là avec le fretin.
Mama Sifa, avec une vase en plastique sur sa tête, comme elle, elles sont des centaines. Dès l'aube, elles envahissent la rive du lac Kivu pour chercher des sambaza qu'elles vont revendre au quartier et dans les marchés de la ville.
J'ai 7 enfants et avec le salaire de mon mari qui est militaire, c'est difficile de joindre les deux bouts du mois. Alors, c'est avec mes petites recettes journalières que nous survivons. Aujourd'hui, avec la situation politique du pays, l'argent ne circule plus. Difficile d'écouler même 50 kilos.
Ces jeunes pêcheurs sont exposés toute la nuit au gaz méthane concentré dans ces lacs, en plus de l'insécurité. Cette année, environ 25 de leurs camarades ont perdu la vie dans des attaques nocturnes et désormais en armes. Mais ces chamas vous dirigent la corporation.
Il y a 25 pêcheurs qui sont morts sur le lac. Durant cette année, ils ont laissé des orphelins et des femmes. La première des choses, c'est la sécurité d'abord. La deuxième des choses, c'est nous renforcer à travers les microcrédits pour voir comment encore nous ressaisir.
Évidemment, après les cris d'alarme des pêcheurs de la RDC et ceux du Rwanda voisin, dans leur dernière rencontre tenue à Goma le week-end dernier, les maires des villes de Rubavu au Rwanda et celui de Goma se disent aujourd'hui déterminés à résoudre ce problème de l'insécurité sur les lacs Kivu. Didonné Mami Chomaler, maire de Goma, explique.
On a organisé des équipes de patrouille qui vont à chaque fois accompagner les pêcheurs quand ils seront en activité. Avec mon collègue de la ville de Rubavu, nous devons collaborer dans une attente mutuelle, dans une franche compréhension, celle de vivre ensemble pour que cette sécurité soit effective.
Très appréciée par les habitants de la région, à la table, les Sambaza restent une recette incontournable pour les habitants de Goma comme leurs visiteurs aussi. Ils se consomment grillés ou préparés à la sauce tomate. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Présidentielle américaine 2016, les sondages se resserrent à 8 jours de la présidentielle. Les démocrates tirent à boulet rouge sur le directeur du FBI qui a relancé la campagne avec l'affaire des emails d'Hillary Clinton, tandis que Donald Trump cherche à exploiter la situation pour remonter dans les sondages. Idriss Fall.
Hillary Clinton est retournée hier en Floride, un état décisif dans la course à la Maison-Blanche. Son avance a légèrement fondu et même une nouvelle enquête d'opinion du New York Times, Upshot et Siena College donnait hier Donald Trump vainqueur à 46% contre 42% à Madame Clinton. Pour le camp démocrate, la faute est au directeur du FBI, James Comey, qui a créé vendredi la surprise en annonçant la relance de l'enquête sur les emails privés de Hillary Clinton. John Podesta, président de la campagne de Mme Clinton, a dénoncé une action sans précédent, affirmant que le directeur du FBI est passé outre le conseil des responsables du ministère de la Justice, rappelant que ce ministère auquel le FBI est rattaché avait comme tradition de ne pas faire de l'interférence dans une élection. Il aurait pu commencer par regarder ses emails avant de faire ça au milieu d'une campagne présidentielle, a insisté M. Podesta, jugeant inapproprié la conduite de M. Comey. Le peu de contenu de sa lettre au Congrès a été immédiatement déformé, ajoute Robbie Mock, directeur de campagne de Mme Clinton, demandant à l'instar de l'ex-secrétaire d'État que toutes les informations soient mises sur la table et au plus vite. Samedi, Mme Clinton avait jugé étrange et profondément inquiétant le comportement du directeur du FBI, qui, rappelons-le, a été longtemps républicain avant d'être nommé par le président Barack Obama en 2013.
Pourtant, une enquête avait conclu en juillet qu'il n'y avait pas matière à poursuite, mais que Mme Clinton avait fait preuve d'une extrême négligence. Qu'est-ce qui a relancé cette affaire ?
Des milliers d'emails auraient été retrouvés sur un ordinateur que partageait l'une des proches collaboratrices de Mme Clinton, Huma Abedin, avec son ex-mari Anthony Weiner, qui fait lui-même objet d'une enquête. Weiner est soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à une adolescente de 15 ans. C'est dans le cadre de cette enquête que les emails ont été découverts. Le patron du FBI n'a donné aucun détail, mais dans sa lettre à des responsables du Congrès souligne qu'il est trop tôt pour savoir si cette découverte sera ou non significative.
Bien sûr, l'affaire des emails est largement exploitée par le camp républicain.
Donald Trump avait hier 3 meetings dans le Nevada, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Il a dénoncé le plus grand scandale politique depuis le Watergate. Il assure être en tête dans de nombreux sondages, dont beaucoup, selon lui, ont été réalisés avant l'annonce de l'enquête criminelle ce vendredi. Sa directrice de campagne, Kellyanne Conway, ajoute que si le directeur du FBI n'avait pas révélé ce nouveau développement, il aurait pu tout aussi bien être accusé d'interférence. Madame Conway conclut en disant, et je cite, « Nous allons surprendre tout le monde et gagner l'élection ». Il suffira simplement d'attendre la soirée électorale du 8 novembre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.